ce dont les autres ne parlent pas.
Bonjour, vous êtes sur Radio Spoutnik, ici Marie Clairville.
Et Édouard Chanot.
Et voici les titres d'aujourd'hui.
Peut-on pousser l'Europe à distribuer ses surplus de viande dans les principaux pays d'accueil aux réfugiés syriens? Trois ministres de l'agriculture européens, dont Stéphane Le Foll, ont avancé cette proposition dimanche à la Commission européenne afin de pallier à la crise que traverse la filière bovine en Europe. Le projet a-t-il des chances d'aboutir et répond-il aux enjeux des éleveurs? Élément de réponse dans la suite de l'émission.
Pour la 8e fois, la manif pour tous défilait dans les rues de Paris hier. 2 ans après la dernière manifestation, ceux qui s'opposent en défenseurs de la famille traditionnelle ont rassemblé 24 000 personnes selon la police et 200 000 selon les organisateurs, avec pour intention de peser sur la primaire de la droite et l'élection présidentielle de 2017. Restez avec nous, nous revenons sur le sujet dans quelques instants.
C'est officiel, l'offensive visant à libérer Mossoul de Daech a débuté. Une opération d'envergure qui fait craindre à l'ONU, je cite, la plus grande opération humanitaire dans le monde en 2016. En effet, 1,5 million de personnes vivent à Mossoul et risquent d'être touchées par des combats qui s'annoncent intenses. Daech n'étant pas en effet prêt à lâcher cette importante ville irakienne. Comment les ONG s'apprêtent-elles à faire face? Élément de réponse dans la suite de l'émission.
8e sommet des BRICS le week-end dernier à Goa en Inde. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud vivent un contexte difficile entre le recul de leur croissance, une économie mondiale fragile et une Syrie déchirée par le conflit. Ils ont évoqué ce dernier point, appelant à la paix et à la lutte contre le terrorisme, y compris contre Daesh et le front al-Nusra. Mais c'est surtout un sommet économique et nous écoutons dans quelques instants Jean-François Dufour analyser pour nous les mesures décidées à l'occasion du sommet.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
L'association ATD Carmonte lance le concept de pauvrophobie et espère le voir entrer bientôt dans le dictionnaire.
L'ONG était déjà la promotrice de la loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale.
Alors la cause semble noble, mais que dire des moyens pour la défendre? Cette nouvelle phobie sociale a en tout cas fait réagir notre chroniqueur Stanislas Tarnowski. On l'écoute.
Je suis malade, tu es malade, nous sommes tous malades, telle une peste brune forcément. La maladie se répand, elle mute sans cesse pour attaquer de nouvelles victimes innocentes, ou pas tant que ça d'ailleurs. Peut-être êtes-vous porteur sain, peut-être êtes-vous malade sans même le savoir. N'appelez pas tout de suite l'Institut Pasteur, il ne peut rien pour vous. Il n'existe pas de vaccin et la sécurité sociale ne rembourse pas cette maladie. Cette affection mentale attaque les cerveaux les plus fragiles, mais pas que. J'ai nommé la phobie. Alors, petit rappel, en psychiatrie, la phobie décrit le trouble psychiatrique, donc, lié à une peur irrationnelle. Donc, nous sommes tous phobiques de quelque chose. Dernière en date, la pauvrophobie, ou discrimination pour précarité sociale, lancée par ADT Carmonde à la suite d'un concours. Oui, oui, un concours pour inventer une nouvelle phobie avec l'objectif avoué de faire entrer le mot dans le dictionnaire. Tu refuses une clope à un punk à chien? Pauvrophobe! Tu t'insurges contre les mendiantes roms avec leurs bébés drogués jusqu'aux yeux? Pauvrophobe! Corollaire habituel de cette nouvelle maladie, une loi pour punir la dite phobie. Eh oui, vous êtes malade, on vous colle en prison. Un peu comme du temps de l'Union soviétique où on mettait en asile psychiatrique tout dissident qui parlait un peu fort contre le système. Voilà donc la pauvrophobie qui rejoint la longue cohorte des maladies mentales passibles, pour la plupart, de poursuites judiciaires. Saurez-vous dans la liste suivante retrouver lesquelles? Petit jeu. Vous refusez de voir des prières de rue musulmanes dans votre quartier? Islamophobe. Vous êtes contre le contrôle tatillon et antidémocratique des instances bruxelloises sur notre vie? Europhobe. Vous défendez un modèle familial traditionnel? Homophobe. Vous trouvez que l'aviation russe bombarde Alep trop violemment? Russophobe. Vous vous demandez si d'accueillir des millions de migrants en Europe ne va pas bouleverser quelque peu nos modèles sociaux, culturels et économiques? Xénophobe, migranophobe. Dès que Poutine ouvre la bouche, les poils de vos avant-bras se hérissent? Poutinophobe. La vue d'un clocher d'église heurte vos convictions laïques ou celles d'une autre religion? Christianophobe. Vous vous demandez si la politique américaine de déstabilisation du Moyen-Orient était vraiment une si bonne idée que ça? Américanophobe. Et bien sûr, n'oublions pas la judéophobie, c'est devenu plus chic que l'antisémitisme, la gérontophobie, l'administratophobie, qui ne touche pas que l'ex-ministre Thomas Thévenoud, la transphobie, la biphobie, la burkinophobie, la bérébascophobie, la gynéphobie, qui remplace avantageusement la misogynie, et bien sûr, la banlieuphobie. Alors entendons-nous bien, je trouve que la plupart des opinions ainsi détectées phobies sont tout à fait condamnables, à commencer par la pauvrophobie. Le mépris de classe d'une certaine bourgeoisie pour les classes populaires me débecte, au risque d'afficher moi-même une certaine bourgeoisophobie. Mais de psychiatriser les opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord, d'instituer une liste de délits d'opinion de plus en plus longue, relève purement et simplement, je l'ai déjà évoqué, de méthodes totalitaires. On invalide l'opinion divergente sans la discuter en la traitant de maladie mentale et on empêche de plus tout débat par la menace de poursuites judiciaires. Alors voyez-vous, au pays de la liberté d'expression et des droits de l'homme, je trouve que ça la fout mal. Ça doit être ma systémophobie qui parle. Promis, je vais essayer de me soigner. C'était Stanislas Tarnowski pour Radio Sputnik.
7 jours par semaine, nous délivrons l'essentiel de l'information. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Le 6 octobre, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, déclarait, je cite, « L'Europe pourrait utiliser la viande qu'elle a en excédent pour répondre à des besoins humanitaires. »
En 2016, 250 000 vaches laitières de plus seront abattues qu'en 2015 afin de pallier à la surproduction de lait en Europe, un surplus qui contribue à faire chuter le cours de la viande.
Afin de pallier à cette surabondance, 3 ministres de l'agriculture européens ont proposé de redistribuer le surplus aux pays qui accueillent le plus de réfugiés. Alors, est-ce une bonne idée? C'est la question que se pose Maxime Perrotin.
Dimanche, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, ainsi que ses homologues allemands, Christian Schmidt et polonais, Christophe Jurgiel, ont enjoint la Commission européenne à redistribuer le surplus de production de viande bovine au bénéfice des pays faisant face à un afflux de Syriens fuyant la guerre, au premier rang desquels la Turquie, le Liban et la Jordanie. Une position commune des 3 ministres qui fait suite à leur rencontre au Mans vendredi, consacrée à la situation des différents secteurs qui traversent des difficultés, notamment le lait et la viande bovine. Se faisant ainsi écho de proposition des éleveurs à l'occasion du salon de l'élevage en Auvergne en début du mois, proposition relayée par l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes Interbev. Outre sa dimension humanitaire, ce programme en nature à destination des réfugiés permettrait de s'attaquer en partie à la crise que traverse la filière bovine dans l'Union européenne, moins d'excédents afin de provoquer une remontée des cours. Mais si la mesure semble partir d'une double bonne volonté, aider les migrants tout en donnant un coup de pouce aux éleveurs, est-ce que cela peut résoudre le problème de fond? Je ne parle pas de la crise en Syrie, de l'afflux de réfugiés à nourrir où nous avons notre part de responsabilité, mais des raisons de la crise bovine, là aussi passée sous silence par les médias, à quelques exceptions stigmatisantes près. La tendance n'était déjà pas très bonne dans un contexte national d'augmentation continue des charges pesant sur les éleveurs, couplé à un appauvrissement des consommateurs, entraînant à la fois une diminution de la consommation et une difficulté pour les producteurs à écouler leurs produits, le tout dans un contexte européen de libre concurrence, auquel le poids des contre-mesures économiques russes décrétées en réponse aux sanctions européennes est venu s'ajouter. En effet, si le cours de la viande s'effondre aujourd'hui, ce n'est pas parce que les Français se désintéressent soudainement de la viande, et parce que les abattoirs tournent à plein régime. Là encore, ce n'est pas parce que l'année a été exceptionnellement productive pour les éleveurs, c'est tout simplement parce que les producteurs laitiers qui peinent à écouler leur stock de lait vendent aux abattoirs leurs vaches laitières dans une ultime tentative de contrebalancer une tendance mortifère pour leur filière. Au début du mois, Guillaume Mouet, président de la section bovin d'Interbev, revenait sur l'ampleur du phénomène. Le représentant expliquait à nos confrères du Figaro que la diminution de la production laitière due aux contre-sanctions russes avait envoyé dans les abattoirs européens un surplus de 250 000 vaches laitières, dont la viande est vendue moins chère en grande surface. Ce sont en effet 1 million de vaches laitières de plus qu'en 2015 qui seront abattues en 2016 dans l'ensemble des 28 pays membres de l'UE, afin de réduire drastiquement la production et soutenir ainsi les cours du lait, selon la Fédération nationale bovine. Un afflux de viande bon marché qui vient ainsi accentuer une tendance morose. En août déjà, les éleveurs tiraient le signal d'alarme sur les 80 000 exploitations spécialisées dans la viande bovine que compte la France. 30 000 seraient au bord de la faillite. Un état de quasi-faillite sur lequel insistait Guillaume Mouet auprès du Figaro. La mesure de Le Foll peut certes aider les producteurs de viande si, selon Jean-Christophe Bureau, spécialiste en économie agricole, écouler 2 à 3% de la production de viande ferait remonter de 5% le cours de celle-ci. Qu'en est-il des producteurs de lait qui sacrifient aujourd'hui en masse leur cheptel? Alors l'autre question qui demeure, c'est de savoir comment cette proposition va être reçue par Bruxelles. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, il y a plus de 22 ans, les autorités européennes de la concurrence ont toujours fait preuve de zèle quant au respect de la libre concurrence et à l'ouverture totale du marché agricole. La mesure en question, même en nature, s'apparente bien à un coup de pouce avec une répercussion sur les marchés. Cette idée de mettre en place une aide humanitaire en nature avec leur surplus de production avait déjà été lancée par les éleveurs il y a moins de deux semaines à l'occasion du sommet de l'élevage en Auvergne, une proposition à laquelle le commissaire européen à l'agriculture et au développement rural, Phil Hogan, aurait adressé une fin de non-recevoir. Dimanche, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a défendu au micro de France 3 l'accord de libre-échange CETA entre l'Union européenne et le Canada. Encore un accord qui s'accorderait mal avec les subventions déguisées. C'était Maxime Perrotin, Radio Sputnik France.
Hier, la manif pour tous ressortait ses drapeaux bleus et roses. Deux ans après la dernière grande manifestation, ils étaient 24 000 dans les rues selon la police et presque 10 fois plus selon les organisateurs. De quoi se poser beaucoup de questions, de fond ou de forme, du genre pourquoi maintenant ? Pourquoi ou contre quoi se bat-il exactement ? La loi Taubira ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe était promulguée officiellement le 18 mai 2013. Alors est-ce qu'ils désespèrent son abrogation ? Abrogation contre laquelle, à en croire le récent sondage IFOP, les Français se prononcent aux deux tiers. Ou alors s'agit-il de la PMA, la procréation médicalement assistée, et de son ouverture aux femmes seules et aux couples de femmes ? Ou alors la GPA, gestation pour autrui, interdite en France et pas vraiment, voire pas du tout envisagée par le gouvernement ? En gros, c'est quoi le message exactement ? C'est qui le tous du pour tous ? Et est-ce qu'il s'agit juste d'un moyen de tenter de peser sur le débat électoral ? Beaucoup de questions, je vous avais prévenu, et ce n'est pas fini. Notre correspondante Xenia Kozlitina était sur place, et dans les réponses de la jeune femme bonnet phrygien en feutre léger sur la tête qu'elle a interrogée, je trouve source d'encore plus de questionnements. Écoutons un petit passage de leur échange.
Un enfant, il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est un futur adulte, grâce à ses parents, eux qui lui montrent qui il est, non, qui va devenir. En ce sens, on a besoin des enfants construits qui connaissent un père et une mère. Et si l'enfant est adopté, tu penses que c'est mieux qu'il n'a pas de famille du tout, qu'il a deux pères? Ah oui, c'est mieux qu'il... Alors ça, en ce cas-là, c'est pas la même question, parce qu'on pourra toujours trouver une alternative. Mais un enfant, il va profondément être perturbé d'avoir deux pères ou deux mères. Parce que si à l'école, on lui dit, il est où ton papa? Il est où ta maman? Et bien, il répond quoi, l'enfant? Il répond, je n'en ai pas. J'ai deux pères, j'ai deux mères. C'est profondément injuste pour cet enfant. Et il vaut mieux que cet enfant connaisse la joie d'un orphelinat, qu'il connaisse l'amour de deux personnes qui l'encadrent dans un orphelinat.
Oui, donc là, par exemple, les nouvelles questions qui me viennent, ce serait, c'est quoi exactement les joies de l'orphelinat? Et c'est mieux pas de famille du tout que de papa, vraiment. Enfin, passons. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont nombreux en France insatisfaits de cette loi. Tiens, ça me rappelle un autre passage fort en manifestation de notre histoire récente. Nombreux à vouloir se faire entendre, mais de qui exactement? Tiens, encore une question. Pas simple tout ça, hein, mais tout de suite, on accueille Jean-Baptiste Bindès, qui commence par nous parler chiffres. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie, on vous en parlait justement. Cet été, la CGT et le ministère de l'Intérieur s'écharpaient déjà sur le nombre de manifestants. La police comptait 125 000 manifestants en France pour la journée du 14 juin. Les syndicats parlaient de 1,3 million de personnes. Il y aura donc toujours cette bataille de chiffres entre le nombre de personnes présentées par le ministère de l'Intérieur et les organisateurs. Si une estimation paraît difficile à l'œil nu, notre journaliste Xenia Kozlitina était hier après-midi au défilé de Manif pour tous. Elle nous a dit qu'elle trouvait ça quand même beaucoup, 200 000 personnes. Mais sur le fond, plus particulièrement, Xenia a demandé à la même manifestante interrogée plus tôt pourquoi elle était là hier dans ce défilé.
On est là pour les droits des enfants, pour les droits des familles. De manière plus particulière, les enfants défendent leurs droits, ce sont les plus faibles ici. Alors nous sommes contre la loi Taubira encore et toujours, mais aujourd'hui c'est plus fort, plus spécialement sur la PMA et la GPA. Parce qu'Emmanuel Valls doit rendre un avis contre la GPA durant la Cour européenne des droits de l'homme avant le 21 octobre. Et nous le poussons à le faire, du coup nous nous mobilisons pour lui montrer que nous sommes toujours là, que la France est là et que nous allons tous défendre nos valeurs. Nous allons défendre la famille avec un père, une mère, des enfants, la famille constitutionnelle, la famille traditionnelle depuis tout le temps.
En fait, le combat de la Manif pour tous s'est articulé contre la loi Taubira en 2013 donnant le droit aux couples de même sexe de pouvoir se marier et adopter des enfants. Selon le mouvement, ce n'était pas un positionnement contre les homosexuels, on les a beaucoup accusés d'homophobie, mais il s'agissait de préserver le modèle familial traditionnel, d'où le slogan « un papa, une maman ». On se rappelle des grands rassemblements avant, pendant et après le passage du texte au Parlement.
Mais justement, le texte, il est passé, ça fait même 2 ans, et pourtant, ils continuent de manifester. Alors, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'ils entendent toujours faire abroger cette loi Taubira, même s'il faut passer par l'annulation des mariages célébrés. Mais pas seulement. La Manif pour tous a entrepris de combattre l'ensemble de la politique familiale du gouvernement socialiste depuis 2012. Après la bataille perdue du mariage homosexuel, ils entendent s'imposer et prendre le leadership sur nombre de sujets sociétaux. La théorie du genre, par exemple, le pape s'insurgeait il y a 2 semaines sur la présence de, je cite, cette sournoise idéologie dans les manuels scolaires français qui nierait les différences biologiques hommes-femmes. Ce à quoi Najat Vello-Belkacem a répondu, regrettant que le pape ait été, je cite, victime de la campagne de désinformation massive conduite par les intégristes, la Fondation Le Jeune, Vigigender et d'autres. Ces conservateurs, parce qu'il faut le dire, ce sont des conservateurs, il n'y a pas de mal à ça. Ils dénoncent aussi la politique fiscale du gouvernement envers la famille. Plusieurs revendications majeures, l'annulation de la réduction du quotient familial, la suppression de la demi-part fiscale, l'abandon de la réforme du congé parental. Selon la Manif pour tous, il s'agit de mesures fiscales prises contre les familles. Enfin, et c'est ce qu'on a entendu lors de l'intervention de la manifestante, la Manif pour tous entend peser dans le débat public pour éviter l'importation en France de la PMA et de la GPA. Alors, la procréation médicalement assistée est pour l'instant réservée aux seuls couples hétérosexuels, mais la ministre des Familles, Laurence Rossignol, a déclaré être favorable personnellement à la PMA pour les couples lesbiens. Et la GPA pour gestation pour autrui. Pour autrui, pardon, la Manif pour tous, il dénonce une marchandisation du corps, l'esclavage de la femme et un trafic d'enfants, même si le gouvernement a nié vouloir légiférer sur la question.
Mais si en parlant de politique et de gouvernement, est-ce que la Manif pour tous, d'après toi, peut peser dans le débat politique? Parce que on sait bien que 2017 approche à grands pas.
Alors pour répondre à ta question, on peut tout simplement parler de qui était à la manifestation hier. 2 candidats à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, le dirigeant de Debout la France, et Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti démocrate chrétien, et candidat à la primaire de la droite et du centre. C'était d'ailleurs le seul des 7 candidats à se montrer hier. Personne d'autre au sein des Républicains n'avait fait le déplacement. Ah oui, François Fillon avait émis un communiqué la veille pour les encourager. Et côté Front National, ni Marine Le Pen ni Florian Philippot ne sont venus. On a seulement pu voir les 2 députés du parti, Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen, qui a pu d'ailleurs pour la première fois prendre la parole à la tribune. Donc, pour répondre à ta question, je pense que la Manif pour tous a échoué à se transformer en véritable mouvement politique capable de faire ou de défaire des élections, peut-être à cause de calculs politiques des uns et des autres. La Manif pour tous réussit toutefois à médiatiser son combat depuis quelques années, donc elle n'a pas eu de résultats ou très faibles pour l'instant, mais elle a réussi à s'installer dans l'opinion et semble décidée à s'imposer sur le long terme.
En tout cas, tout ça soulève beaucoup de questions et il apparaît que sur ces questions de société, dans un sens ou dans l'autre, pour l'instant, 2 visions cohabitent qui n'arrivent pas à se rencontrer. En Russie, par exemple, les autorités sont du côté d'une représentation traditionnelle de la famille et les lois vont dans ce sens. Il existe même une loi qui interdit la propagande gay. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de véhiculer cette vision du couple ou de la famille aux enfants. Et de la même manière qu'en France, la loi a beau dire oui, mais que certains sortent dans la rue pour dire non, en Russie, la loi dit non, mais des familles homosexuelles existent et vivent parfaitement bien. Et si cette loi russe vous paraît étrange, dites-vous qu'il en existait une très similaire au Royaume-Uni jusqu'au début des années 2000. On notera qu'aux États-Unis, en juin 2015, la Cour suprême rendait légal le mariage homosexuel, alors que dans certains États, comme le Mississippi, ils étaient en 2014 près de 70% à se prononcer contre, et qu'on enseignait aux petits-enfants d'Alabama, encore en 2014, que, je cite, l'homosexualité n'était pas un mode de vie acceptable et qu'un comportement homosexuel était un crime. Ce que ce revival de la Manif pour tous interroge aussi, peut-être, c'est la capacité du gouvernement à communiquer de manière pédagogique au sujet de ses décisions. Parce qu'une fois qu'on décide de faire preuve d'ouverture et de faire entrer dans les mœurs d'un pays une nouvelle vision de la famille plus ouverte, par exemple, peut-être qu'il faut ensuite accompagner cette transition. Et tout de suite, Edouard, je crois que tu voudrais nous parler des nouvelles sanctions contre la Russie.
Alors Bruxelles traîne des pieds. Non, il ne s'agit pas de la crise migratoire, ni même de la crise agricole, ou même de la crise bancaire. Non, cette fois, il s'agit d'une paresse qui a quelques mérites, peut-être. En effet, tandis que John Kerry, le vice-président américain, s'entretenait à Londres avec Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères britannique, tous deux ont mentionné de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Ainsi, je cite, « Nous envisageons des sanctions supplémentaires et nous voulons nous montrer clairs. Le président Obama n'a exclu aucune option pour le moment », a déclaré John Kerry. Mais, semble-t-il, la machine bruxelloise n'a pas l'air, pour l'instant, de vouloir suivre. En effet, Federica Mogherini a indiqué que la question n'était soulevée par aucun État membre. On écoute.
morning. This has not been proposed by any member state.
Cela n'a pas été proposé par aucun membre. J'ai vu que cela a été beaucoup évoqué dans les médias, mais pas dans les réunions.
In none of our meetings, this issue was raised.
Dans aucune d'entre elles, la question n'a été soulevée par un seul État membre.
But we have sanctions on
mais nous avons des sanctions à l'encontre du régime syrien,
as you know,
comme vous le savez, et il pourrait y avoir des discussions à ce sujet.
For sure, that could be possible. Thank you.
Une manière donc de dire qu'aucun pays européen n'avait très envie de suivre l'option indiquée par Washington. Alors rappelez-vous, les sanctions avaient été adoptées et prolongées l'été dernier en raison du conflit ukrainien. Mais cette fois, les choses se présentent autrement. Les grandes déclarations anglo-saxonnes, John Kerry qualifiait les bombardements à l'Est, je cite, de crimes contre l'humanité, pourraient bien dévoiler leurs limites. Certains se plaignaient déjà, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, mais aussi la Hongrie et l'Italie se sont prononcés contre la prorogation des sanctions. Alors sans doute le seront-elles encore, je veux dire prorogées, mais leur élargissement du fait de la crise syrienne n'a pas vraiment l'air de fédérer pour l'instant les continentaux. Il faut bien dire toute l'absurdité d'une rhétorique humaniste au service d'intérêts autres, alors que certains se rendent bien compte que le régime syrien et la Russie luttent contre l'État islamique. Bref, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, ou encore les amis de mes ennemis sont mes ennemis, penserait la sagesse populaire, souvent davantage prudente que certains gouvernements occidentaux trop préoccupés par leurs préoccupations moralistes.
Et la France dans tout ça, Edouard ?
Alors, la France. D'une grande perspicacité, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui participait lui aussi à cette petite réunion londonienne, a déclaré quant à lui, je cite, « Je ne pense pas que les parlements des pays européens soient prêts à déclarer la guerre. » Avant d'ajouter, nous sommes toujours prêts à parler avec les Russes et avec les Iraniens, mais nous exigeons ce préalable qui est l'arrêt des bombardements. Fin de citation. Le Quai d'Orsay exige donc un arrêt des bombardements pour reprendre la discussion. Bon, c'est un peu une manière bancale pour se donner des apparences de fermeté après le désastre diplomatique de la visite manquée de Vladimir Poutine.
7 jours par semaine, nous délivrons l'essentiel de l'information. Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Le week-end dernier, à Goa, en Inde, c'était le 8e sommet des BRICS, un sommet qui a donc rassemblé le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.
Alors s'ils ont évoqué la crise syrienne, les BRICS se sont concentrés sur les questions économiques dans un contexte de recul de leur croissance et d'économie mondiale pour le moins fragile.
On écoute donc tout de suite Jean-François Dufour qui analyse la dynamique de la Chine au sein des BRICS aujourd'hui.
L'économie des BRICS a bien résisté à la crise, avec une croissance à deux chiffres pendant de nombreuses années. Et les cinq pays, en particulier la Chine, peuvent-ils résister à un ralentissement de leur économie ?
C'est effectivement une des questions majeures pour la Chine aujourd'hui. C'est un des grands enjeux qui explique l'implication de la Chine dans la dynamique des BRICS aujourd'hui. Dans la mesure où la Chine est aujourd'hui un tournant pour son économie, c'est-à-dire qu'elle essaye de réformer un modèle économique qui a été très longtemps basé sur l'investissement et qui a abouti à du surinvestissement. Pour elle, un des enjeux aujourd'hui, c'est d'essayer d'exporter en partie ce modèle économique, c'est-à-dire de trouver des relais de croissance. Et parmi ces relais de croissance potentiels, ses partenaires au sein des BRICS, donc effectivement les quatre autres grands pays émergents, sont des marchés potentiels qui sont susceptibles de prendre le relais d'une partie de la croissance chinoise.
Quelle est l'influence de l'économie chinoise sur l'économie mondiale ?
Alors, le problème pour la Chine aujourd'hui, c'est que pendant presque 10 ans, elle a joué le rôle en fait de moteur de l'économie mondiale, c'est-à-dire que face à une économie entrée en crise marquée dans le bloc occidental, la Chine a joué le rôle de moteur qui permettait de compenser en partie le recul de l'économie mondiale. Aujourd'hui, à cause des réformes en cours en Chine, le pays ne peut plus progresser autant. Donc d'où cette problématique, elle ne peut plus jouer aujourd'hui le rôle de seul moteur alternatif à la croissance mondiale, et elle a besoin en fait de relais d'autres économies qui la soutiennent dans ce processus. C'est difficile avec les économies occidentales qui sont à un stade économique où il est difficile de réenclencher des processus de croissance très accélérés. Par contre, la Chine escompte sans doute plus de potentiel parmi les autres grands marchés émergents, d'où l'intérêt qu'elle leur accorde.
Est-ce que la nouvelle banque de développement peut-elle servir d'un levier supplémentaire de la dynamique de croissance chinoise ?
Alors c'est effectivement un des leviers sur lesquels la Chine essaye de jouer. Donc on a cette nouvelle banque de développement, on a une réplique un peu régionale qui est la banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures. C'est-à-dire qu'on a une série de relais financiers que la Chine essaye de mettre en place pour dynamiser la croissance de ses partenaires. Donc soit des voisins comme la Russie ou l'Inde, soit des pays plus éloignés, mais qui puissent rentrer dans une dynamique de développement coordonnée avec la Chine. Donc effectivement, ce sont des relais financiers sur lesquels la Chine compte pour essayer d'enclencher cette dynamique.
Dernières actualités, des analyses d'experts et des enquêtes exclusives. Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
L'offensive pour reprendre Mossoul, l'un des derniers bastions de Daesh en Irak, a commencé.
La bataille pourrait provoquer une crise humanitaire sans précédent. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Stephen O'Brien, est, je cite, extrêmement préoccupé par la sécurité de 1,5 million de personnes vivant à Mossoul qui pourraient être touchées par les opérations militaires.
Comment prévoit-on d'organiser l'aide à ces futures victimes de l'offensive ? On écoute Gaëlle Nicole.
Le temps de la victoire est venu, a déclaré le premier ministre irakien Haider al-Abadi. L'offensive pour libérer Mossoul dans le nord de l'Irak est officiellement lancée, a annoncé le ministre dans une allocution télévisée le 16 octobre. Mossoul est sous le contrôle de Daesh depuis plus de 2 ans. Les résidents de la ville ont été prévenus des débuts de l'offensive et le ministre leur a également demandé de ne pas quitter la zone. Écoutons Fabien Seriex, en charge de la communication d'Action contre la faim au Moyen-Orient, qui s'apprête à intervenir auprès de la population.
Jusqu'à présent, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un envoi massif de brochures, de communiqués sur la ville de Mossoul, prévenant la population de la ville de ne pas quitter leur domicile pour le moment. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de mouvement de population qui sortent de la zone.
La bataille s'annonce longue et fait craindre aux Nations Unies une grave crise humanitaire. L'organisation, par le biais de sa coordinatrice pour l'Irak, Liz Grand, a annoncé faire tout son possible pour que les mesures soient prises dans le cas du pire scénario humanitaire. Selon les chiffres de l'organisation, 1,5 million de personnes vivant à Mossoul pourraient être touchées par les opérations militaires, ce qui pourrait en faire la plus grande crise humanitaire dans le monde en 2016. 1 million de personnes pourraient être déplacées en quelques semaines.
Du côté des organisations humanitaires et des Nations Unies, il y a eu depuis plusieurs mois beaucoup d'efforts de coordination et de préparation pour pouvoir assumer et aider des flots potentiellement importants de déplacés. Donc ce qui s'est passé, c'est que toute la zone qui entoure la ville de Mossoul a été découpée en 4 afin de pouvoir organiser la réponse humanitaire et la coordonner de la meilleure manière. Du coup, ce que nous on a fait de notre côté, Action contre la faim a décidé de se positionner sur la zone nord de Mossoul et à l'est de la ville, sur laquelle on essaiera de répondre avec un support en nourriture, un support en eau, assainissement et hygiène, et un soutien psychologique et psychosocial aux victimes qui auront réussi du coup à sortir de la zone.
Des camps sont en train d'être installés pour accueillir les personnes fuyant Mossoul. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés espère pouvoir en disposer de 11 d'ici la fin de l'année pour une capacité de 120 000 personnes. L'autorité irakienne dit pouvoir en accueillir 150 000 dans d'autres camps. Mais les fonds risquent de manquer, estime Fabien Seriex d'Action contre la faim.
Il y a un appel qui a été lancé par les Nations Unies jusqu'à présent. Effectivement, bon, tous les fonds qu'ils avaient demandés n'ont pas été nécessairement alloués. Nous, on a des fonds qu'on considère partiellement suffisants par rapport à la réponse qu'on souhaite apporter. Donc, ça correspond à aider 4 000 personnes à peu près dans les 6 mois qui viennent. Donc, une prise en charge rapide de ces gens sur les premiers sites où ils pourraient arriver et ensuite sur les sites où ils vont s'installer au fur et à mesure. Évidemment, il y aura probablement une grande nécessité de fonds supplémentaires. Je pense que tous les bailleurs de fonds internationaux aussi seront être réactifs, en tout cas on l'espère, au moment où la situation évoluera. À l'heure actuelle, l'absence de déplacement jusqu'à maintenant, ça fait juste quelques heures de toute façon que l'offensive militaire a été lancée, ne permet pas de comprendre exactement dans quelle proportion il y aura des mouvements de population. On estime que jusqu'à 1 million de personnes peuvent se trouver dans la ville de Mossoul, donc c'est le caseload maximum.
Le premier ministre irakien a précisé que seule l'armée irakienne et la police nationale entreraient dans Mossoul, avec l'appui essentiellement aérien des forces de la coalition internationale anti-Daesh. Mais d'autres forces sont déployées dans le cadre de cette offensive qui se prépare depuis des mois, comme les combattants Peshmerga kurdes ou encore les milices sunnites et chiites. L'opération pour reprendre Mossoul est complexe et nul ne sait combien de temps il faudra à l'armée irakienne pour pénétrer dans la ville et la libérer de Daesh. Gaëlle Nicole, Radio Sputnik France.
Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik et nous continuons à suivre l'actualité de ce début de semaine.
Manifestation nationale anti-CETA samedi après-midi. Ils étaient plusieurs centaines à Paris et bien d'autres dans 35 villes de France à venir dire leur opposition au traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. L'objectif du collectif Stop TAFTA à l'initiative de la manifestation, attirer l'attention du grand public et du gouvernement. L'accord devrait être signé le 27 octobre à Bruxelles, mais le Parlement wallon a mis son veto vendredi à la signature du traité par la Belgique.
350 000 dollars de matériel, c'est ce qu'a envoyé le cheikh Mohamed avec son avion personnel à Haïti. Le dirigeant de Dubaï et vice-président des Émirats Arabes Unis a ainsi envoyé des unités de purification d'eau, des moustiquaires, des fournitures médicales, des tentes et d'autres équipements de soutien aux 340 000 insulaires.
De nouvelles sanctions envisagées contre Bachar al-Assad et Moscou pour leurs actions à Alep. Au lendemain de la réunion entre Washington, Moscou et les principaux pays de la région sur la question syrienne, où il a été décidé de prolonger le contact, les pays affinitaires de la Syrie se réunissaient hier à Londres et les États-Unis et le Royaume-Uni disent envisager de nouvelles sanctions ciblées à l'encontre de la Syrie et de la Russie, parlant de crimes contre l'humanité. Jean-Marc Ayrault, quant à lui, réaffirmait au sortir de la réunion l'urgence d'un cessez-le-feu dans cette ville martyre.
Nos comptes au Royaume-Uni sont fermés, tous les comptes. L'information sur le blocage des comptes bancaires de RT a été publiée sur Twitter par Margarita Simonian, la rédactrice en chef de la chaîne de télévision RT de l'agence Russia Segodnia. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Russia 24, celle-ci a déclaré que les autorités britanniques ne disposaient pas de motifs suffisants pour bloquer les comptes de la chaîne car sa situation financière a toujours été transparente.
Motorola a été victime d'un attentat à la bombe à Donetsk. Il ne s'agit pas du géant de l'électronique, mais du pseudonyme d'Arsène Pavlov, une figure mythique des indépendantistes de l'Est de l'Ukraine. Alexander Zakharchenko, à la tête de la République de Donetsk, a déclaré que cet attentat s'apparentait à une déclaration de guerre de la part de Kiev. Alors est-ce une interprétation pertinente? Élément d'analyse dans la suite de l'émission.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
On n'a pas eu le jingle, mais c'est bien Spoutnik autour du monde tout de suite. Et aujourd'hui, on commence en marge du sommet des BRICS à Goa.
Et ensuite, nous irons en Pologne, à la frontière avec l'Ukraine, où les déclarations de certaines organisations nationalistes inquiètent les Polonais.
Bientôt un rapprochement entre l'Inde et la Chine sur les questions nucléaires ? On verra. Xi Jinping et Narendra Modi auraient parlé nucléaire lors du dernier sommet de BRICS à Goa. Selon les médias indiens, le président chinois et le premier ministre indien auraient discuté de l'admission de l'Inde au groupe des fournisseurs nucléaires. L'Inde, qui n'a pas signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, deviendra-t-elle membre du groupe des fournisseurs nucléaires, lesquels comprend 48 pays? Les États-Unis ayant soutenu la demande d'adhésion de l'Inde, la Chine s'est avérée le principal négociateur avec l'Inde à ce sujet. Wang Zimin, directeur du Centre de globalisation et de modernisation de la Chine de l'Institut de commerce international et d'économie, estime que la Chine adopte une attitude constructive envers la demande de l'Inde d'adhésion au groupe des fournisseurs nucléaires. L'Inde est aujourd'hui une puissance forte, dit-il. Les États-Unis et la Russie ne s'opposent pas à son adhésion au groupe, ils la soutiennent même. La Chine insiste sur la participation au groupe exclusivement des pays ayant signé le traité sur la non-prolifération. En plus, cela concerne ses relations dans le triangle Chine-Inde-Pakistan. La position de la Chine est la suivante. Si l'Inde fait partie du groupe, le Pakistan doit lui aussi en être un membre. La situation dans les relations indo-pakistanaises dépendant du problème de maintien de l'équilibre stratégique en Asie du Sud, conclut Wang Zimin, directeur du Centre de globalisation et de modernisation de la Chine. Selon la Chine, l'aspiration du pays non signataire du TNP a été membre à part entière du groupe des fournisseurs nucléaires est un nouveau problème dans les nouvelles circonstances. Il faut le régler en deux étapes. Rechercher un schéma non discriminatoire qui pourrait être appliqué aux autres pays n'ayant pas non plus signé le TNP, mais qui souhaitent adhérer au groupe des fournisseurs nucléaires et reprendre sur la base du schéma les pourparlers avec l'Inde. L'expert de l'Institut d'économie mondiale et des relations internationales de l'Académie des sciences de Russie, Piotr Topchenov, signale les pièges dans ces négociations pour parler sur l'adhésion de l'Inde au groupe des fournisseurs nucléaires. Si l'Inde devient membre du groupe, dit-il, cela permettra de lever toute une série de restrictions dans le commerce international de technologies et de matières relatives à l'électronucléaire. La Chine comprend que l'Inde souhaite non seulement importer, mais exporter les matières, les technologies nucléaires, et par conséquent, Pékin essaiera de contenir l'aspiration de l'Inde à adhérer au groupe des fournisseurs nucléaires, elle en la considérant comme un concurrent sur le marché mondial des services nucléaires. Les représentants des organisations de Crétie orientale, région polonaise à la frontière avec l'Ukraine, s'inquiètent de l'évolution de Kiev. Ils ont envoyé un message au ministre polonais des Affaires étrangères pour lui demander de réviser la politique polonaise à l'égard de l'Ukraine. En cause, les déclarations étrangères des représentants ukrainiens qui ne dissimulent pas leur idéologie nationaliste, néofasciste. Dmitri Korchinyki, leader du parti ukrainien Bratstvo, a récemment promis dans un interview au portal Kharkov.life de démonter le monument aux habitants polonais de Lvov ayant lutté contre l'Ukraine dans le cimetière de Lvov. L'ex-député Andrzej Zapalowski a commenté cette déclaration dans une interview à Sputnik Polska.
Pan Tyma, od lat, zresztą jak wielu działaczy Związku Ukraińców w Polsce, prowadzi...
Le nationalisme ukrainien, c'est toujours un facteur déstabilisateur. Il essaie de nuire à la situation dans les pays voisins de l'Ukraine. C'est un mouvement, pour ainsi dire, malade, antidémocratique. Il vise à la confrontation avec tout le monde. Il est nécessaire de faire tout pour qu'une idéologie comme le bandérisme ne contamine personne. Tant qu'il existera le bandérisme, il y aura le danger de déstabilisation tant en Ukraine que dans l'Est de l'Europe. L'enzyme de ce mal est dangereuse par définition. À mon avis, la politique de la République de Pologne à l'égard de l'Ukraine est erronée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le fameux bandérisme fait référence à Stepan Bandera, l'un des dirigeants de l'armée insurrectionnelle ukrainienne et le dirigeant de l'organisation des nationalistes ukrainiens à tendance extrémiste, dite OUNB. Il a collaboré avec l'Allemagne nazie en créant la Légion ukrainienne, placée sous le commandement de Wehrmacht, ce qui n'a pas empêché les autorités de Kiev de renommer une rue en son honneur.
Dernières actualités, des analyses d'experts et des enquêtes exclusives. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.